On va poser le décor de l'émission. Thiago Rodriguez, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui vous entoure ?
Bonsoir. Moi, je suis chez moi, dans mon petit bureau. Alors, d'un côté, j'ai la fenêtre. À travers la fenêtre, je vois la gare de train, parce que j'habite à tout à côté de la gare, et les trains qui passent vides, parce que c'est le couvre-feu au Portugal à partir de 13h le week-end. Et de l'autre côté, sur la table, j'ai le livre que je lis à présent et que je lisais avant le début de l'émission, en fait en français, un auteur français, Baptiste Morisot. Je lis Sur la piste animale, je suis complètement passionné par ce livre qui m'était révélé par deux acteurs français, Alma Palacios et David Jesselson.
Et donc, voilà, vous voyez les trains qui arrivent et qui partent de Lisbonne, Thiago Rodriguez.
Oui, qui entrent la ville et qui partent de la ville, mais en fait, plutôt vide.
Caroline Guillen, est-ce que vous êtes dans votre bureau aussi ?
Oui, bonjour. Je suis dans mon bureau, effectivement. Et à côté de moi, il y a ma fille qui dort, qui vient juste de se coucher. Et sinon, j'ai effectivement toute ma bibliothèque avec en face de mon bureau. J'ai toujours besoin d'avoir des photos et des bouts de des mots ou des bouts de phrases qui m'aident à construire les spectacles. Et il y en a une que j'aime particulièrement où il y a marqué ton corps, je l'ai rapporté dans ton cœur, je l'ai rapporté dans ton corps, je l'ai mis pour toi à sa place. Et c'est un mot qui est dit par les hommes qui ont embaumé le corps des en Égypte. Voilà, à l'ambre.
Et on est aussi avec deux personnes qui travaillent avec vous en ce moment, Caroline Guillen, Youssouf Gueye, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, bonjour, je vous entends.
Alors Youssouf, vous êtes où ?
Moi, je suis dans mon salon, et je regarde le match de Manchester City et Tottenham, et il y a ma mère à côté, et Jérémy qui est dramaturge et qui a aussi fait de la vidéo pour le spectacle.
Parfait, vous nous donnerez des nouvelles du match pendant l'émission.
D'accord.
Et Mavie Carlin, où est-ce que vous êtes pour cette émission ?
Bonsoir. Pareil, je suis dans les bureaux que je partage à la maison avec mon compagnon. Donc les décors, c'est des pochettes des disques et aussi des portraits des femmes que je reçois. Départ d'une collective féministe, et donc tous les mois on s'envoie des portraits des femmes qui nous inspirent. Et j'ai aussi l'arabe du futur dans les choses que je vois sous les yeux.
Eh bien, le décor est posé, on peut commencer. Il est 20h03 sur France Culture et nous entrons dans le pays des larmes. Attention, c'est ni triste, ni facile, ni sentimental, c'est beaucoup plus grand. C'est un pays où on entre avec la mémoire du passé, mais aussi de l'avenir. Olivier Grignon, le psychanalyste, résumait « C'est soudain la présence de ce dont nous sommes exilés. Quelque chose a existé et on l'a perdu. Ou quelque chose va exister et on n'y est pas encore. » Caroline Guillen a placé son théâtre dans ce pays-là. Celui des larmes, qui témoigne chaque fois d'un exil, d'une distance, entre des êtres qui s'aiment ou avec des lieux qu'ils aiment. Son spectacle Saïgon, qui a tourné dans le monde entier, témoignait de destins croisés entre le Vietnam et la France. Elle sondait le passé et comment il travaille le présent. Maintenant, elle s'attaque au futur. Et elle imagine un cycle de création qui va durer 4 ans autour d'un mot « fraternité ». Avec comme sous-titre « Contes fantastiques » au pluriel. Il y a un film qui a été tourné en prison à la centrale à Arles, il y a une pièce de théâtre qui commence à se répéter, et tout se passera, dans la pièce, dans un centre de soins et de consolation. Elle nous projette dans 60 ans, il y a eu une catastrophe, des disparus et des survivants qui s'enregistrent pour leur raconter la vie qui a continué. Se sentir proche d'une vie qui n'est pas la nôtre, se sentir chez soi ailleurs que dans sa maison. Le théâtre de Caroline Guillen n'est fait que de ça, être ailleurs qu'à sa place et s'y sentir si intimement lié qu'on en pleurerait. Mais ni triste, ni facile, ni sentimental, le pays des larmes, celui de Caroline Guillen-Guyenne, tente de prendre soin de tous nos exils forcés. Et par la fiction, elle recolle les morceaux, y compris entre le futur et nous. Alors vous l'avez compris, chacun est dans son décor ce soir, puisque je suis seule en studio et que mes invités sont chez eux. On ira chez Caroline Guillen-Guyenne. Elle a depuis 2019, initié le cycle Fraternité. Il y aura plusieurs chapitres. Les deux premiers, ce sont un court-métrage tourné cet été à la centrale d'Arles avec des détenus. On entendra ce soir la voix de l'un d'entre eux, Jean Ruimi, qui est à l'origine du groupe de théâtre de la centrale. Il y a ensuite une pièce de théâtre qui sera créée l'été prochain en lien avec l'Odéon, la Schaubühne à Berlin, la Comédie de Reims. Les répétitions ont commencé et on ira chez Youssouf Gueye, 16 ans, qui en fait partie. On sera aussi chez Mavi Carlin, psychiatre au centre Minkowska, que Caroline Guillen-Guyenne a rencontré. Alors comme la musique ne peut pas être live en studio en ce moment, la chanteuse Loni nous a offert un enregistrement fait chez elle, spécialement pour nous. C'est Tous en scène, en direct sur France Culture. On commence comme chaque semaine par prendre des nouvelles du théâtre dans le monde. Et ce soir, nous allons à Lisbonne. Thiago Rodrigues, vous êtes donc à Lisbonne, pas très loin des trains qui entrent dans la ville. Vous êtes auteur, metteur en scène et vous dirigez le Théâtre National Dona Maria de Lisbonne. Est-ce que les portes du théâtre sont ouvertes en ce moment ?
Oui, en fait, on reste ouvert. Aujourd'hui, on aura des nouvelles à propos des prochaines semaines, mais jusqu'ici, on est ouvert et on se prépare en fait pour rester ouvert au moins les prochaines deux semaines. Au Portugal, les règles de sécurité sont de couvre-feu pour le moment, un couvre-feu qui nous oblige à anticiper des horaires, même à faire des spectacles le matin, comme aujourd'hui. Ce matin, on a joué. Et les gens viennent et les salles sont complètes à moitié jauge, bien sûr, mais on reste ouvert. Alors il y a quand même un esprit de, bien sûr, angoisse vis-à-vis l'incertitude de l'avenir, mais aussi de résistance et d'espoir, surtout parce que voilà, c'était jusqu'ici une année très très difficile partout dans le monde, et notamment pour les gens qui travaillent au spectacle. Et le fait qu'on reste ouvert, ça nous donne quand même une force éphémère, mais qui nous permet de continuer dans des circonstances difficiles.
Et comment ça s'est passé depuis le début de l'année pour les artistes du point de vue du gouvernement portugais? Comment ils ont été soutenus? Parce qu'il y a déjà eu une crise en 2008 qui a été très difficile pour les lieux de culture au Portugal.
Oui. Voilà, la pandémie, elle a dévoilé des difficultés historiques, chroniques du secteur culturel au Portugal. Et alors, ça veut dire que c'est un secteur très très fragile, très précaire, surtout du côté financier, même s'il y a une grande vitalité artistique au Portugal. Mais il n'y a pas de législation laborale qui est adéquate au contexte intermittent, par exemple des travailleurs du spectacle, et il n'y a pas des soutiens de ce qui...
Ah, on a coupé malheureusement, nous n'entendons plus Thiago Rodrigues. On va voir si on le retrouve. Caroline Guillen-Guyenne, est-ce que vous m'entendez, vous?
Ouais.
Je crois que Thiago Rodrigues a dit au début de l'année qu'il y avait un très vieil outil qui pouvait nous être utile en ce moment, c'est la solidarité. Et vous avez choisi le mot fraternité pour ce cycle donc de plusieurs années là, qui a commencé en 2019, cycle de création avec plusieurs pièces de théâtre, en tout cas deux qui se préparent là. Et puis ce film, comment ce mot il s'est imposé?
Bah, c'est en fait, c'est quand je travaillais sur Saïgon, j'avais toujours la sensation effectivement que notre passé était archivé dans notre présent et qu'il y avait voilà, qu'il était là, archivé quelque part dans ce qui se jouait entre nous, entre humains. Et en fait, en y réfléchissant là pour Fraternité, je me suis dit mais finalement quelque chose du futur aussi est archivé entre nous, c'est-à-dire quelque chose d'une vision du futur est là dans notre réel. Et ce que j'ai ressenti de façon assez forte, c'est que notre vision en fait de ce que nous allions devenir était bouchée, obstruée, elle était difficile à percevoir. D'ailleurs Étienne Klein dit ça, il dit mais en fait on n'a jamais été dans, enfin cette période-là est très spécifique parce qu'en fait elle ne nous offre pas de vision sur l'avenir à part une vision extrêmement violente, noire, et pour des raisons qui sont très concrètes, et c'est pas par grande naïveté que je parle de fraternité, mais je me suis dit mais tiens, est-ce que finalement il n'y aurait pas quand même aujourd'hui à chercher ces laboratoires, ces lieux de fraternité et les récits en fait qui finalement nous poussent à penser le monde avec oui ces élans de solidarité qui existent, qui sont là entre nous, et que j'avais l'impression que ça nous permettait quand même d'avoir des outils pour penser, parce que c'est la fraternité, mais effectivement comme vous dites il y a conte fantastique, c'est-à-dire il y a cette idée aussi d'imaginer l'avenir. C'est vraiment deux mots qui me guide quoi, le futur et la fraternité, et donc voilà, c'est ces deux mots comme ça qui me disent bah essayons de réfléchir prenons l'outil du théâtre et de la fiction pour justement penser cette chose là qui peut modifier des choses pour nous pour l'avenir, je pense.
Et vous dites fraternité et futur, Caroline Guillen-Guyen. Thiago Rodriguez, je crois que vous êtes de retour avec nous, et vous dites solidarité et imagination pour cette période en ce moment qu'on est en train de vivre, c'est assez proche.
Oui, absolument, absolument. Déjà, je veux dire que je suis très content d'être dans une même émission avec Caroline, qui est une artiste que j'admire beaucoup et qu'on attend bientôt de recevoir au Portugal. On fait tous nos efforts. Et voilà, et je pense qu'aussi, à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut plonger sur l'archive. On est face à une pandémie très difficile qui nous pose des nouveaux problèmes. Et il faut trouver des nouveaux outils pour faire face à ça. Mais je pense que jusqu'ici, il y a des vieux outils comme fraternité, comme solidarité modérée pendant ce temps-là, qui était en fait au Portugal la seule façon qu'on a trouvé pour combattre les difficultés du secteur culturel, des théâtres, la fermeture des théâtres et la manque de soutien initial, parce qu'il n'y avait pas des outils de soutien, chômage par exemple, des artistes indépendants, nous a poussé vers une solidarité modérée. C'est un vieux outil, bien sûr qu'il faut inventer des nouvelles solutions pour ces nouveaux problèmes, mais il y a des vieilles solutions dans nos archives, dans notre histoire, comme espèce, comme peuple, et je pense que la solidarité est modérée, exagérée même, est l'outil à utiliser maintenant, et c'est à cause de ça que, par exemple, le Théâtre National à Lisbonne, en se rendant compte qu'il n'y avait pas suffisamment de soutien, on a décidé de continuer à payer à tout le monde, pas seulement les artistes et compagnies portugaises, aussi les internationales, comme si le théâtre était ouvert, comme s'il y avait du public, et de se dire que nous, on assume, sur risque de faillite même, on assume l'impact économique de la crise, parce que c'est ça qu'on fait en démocratie et entre gens qui veulent vivre en justice et solidarité.
Et comment on dit fraternité en portugais, Thiago Rodriguez ?
On dit fraternidade.
Parfait, magnifique. On va poursuivre avec la voix d'Ariane Mouchkine. C'était en 2008.
Au fond, je me rends compte qu'on parle beaucoup de liberté, on parle un peu de l'égalité, mais qu'il y a vraiment une donnée qui est quand même beaucoup oubliée, c'est la fraternité. Ou la sororité, si je ne veux pas me faire gronder par certains féministes. Bon, donc, je pense que c'est ça aussi ce qui se passe avec un public quand il voit un certain spectacle. Je pense que ça fait affleurer à la surface des cœurs et des visages et des yeux, et ça a fait affleurer une fraternité possible et une fraternité qui nous manque. On le sait bien que ça nous manque. On le sait bien, puisque quand quelqu'un a un geste gentil vis-à-vis de nous dans le métro, ou quand il y a un regard qui se croise et enfin pas un visage fermé qui répond, mais on est ému. Parce que c'est, pourtant, c'est ça qui est normal. Mais non, en fait, en ce moment, ce n'est pas normal. Alors, on a remplacé ce mot, je vous dis, par solidarité, mais ça ne veut pas dire la même chose.
Caroline Guillen-Guyen, ce mot fraternité, est-ce que pour vous il est venu justement parce qu'il y avait un manque, comme le dit Ariane Mouchkine ?
Est-ce qu'il y a un manque ? En fait, comment dire ? Là, ça fait depuis 2 ans que je passe pas mal de temps dans ce que j'appelais tout à l'heure les laboratoires de fraternité. Donc, c'est-à-dire que ce soit dans des centres sociaux, que ce soit dans des centres de soins comme le centre Minkowska, où il y a justement ma vie qui va parler plus tard. Et j'ai du mal à dire qu'il manque, parce que moi, je suis en présence de toutes ces personnes qui, au jour le jour, de façon très, très concrète, travaillent à ça, en fait. Et ils croient de façon très profonde et pensent d'ailleurs, enfin j'aime beaucoup cette idée de penser avec un E et un A à chaque fois, la fraternité, le soin, l'élan vers l'autre humain que nous. Donc non, moi je dirais pas qu'il manque, je dirais qu'il manque dans nos récits sûrement, au plateau. Je trouve que actuellement sur ce qui nous arrive comme histoire, ce sont souvent des choses qui croule sous le constat, sous quelque chose qui est si violent que finalement ça nous arrête, ça nous empêche, ça nous désarme. Et c'est vrai que je me dis, mais essayons, un peu comme l'a dit Thiago, de revenir sur cette chose, un peu, c'est ces archives du passé où finalement, moi, je vois des gens, en action sur ça et j'ai envie de pouvoir les ramener dans nos récits, voilà.
Et très vite vient le mot soin, vous l'avez dit, après fraternité. Et le soin que vous mettez en scène dans le futur, en tout cas ce sont des contes fantastiques, on l'a dit, et l'envie de parler du futur et comment il travaille le présent. Pourquoi pour vous c'était important justement de se projeter sur les 60 prochaines années et de travailler dans ce temps-là, en tout cas de reconnecter avec le futur plutôt que de rester au présent?
Parce que, en fait, moi, j'ai toujours besoin de fiction. C'est vrai que d'ailleurs, c'est assez drôle que vous me dites ça, parce que, en fait, quand je travaille sur mes projets, sur nos projets avec la compagnie, j'ai toujours, même quand je relis mes cahiers, là, ce qui s'est à plein de moments, je suis dans une volonté de faire ce que les gens pourraient appeler du théâtre documentaire. Il y a plein de fois où je me suis dit non, allez, on enlève cette question du futur. Je vais faire un spectacle sur les centres sociaux. Enfin voilà, à un moment, je me dis non, mais en fait, je vais faire un spectacle sur aujourd'hui, maintenant, les centres sociaux, avec quelque chose vraiment de très 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 réel comme ça. Et puis très vite, en fait, je viens en fait pousser pour moi la question de l'imaginaire quand même. Et c'est drôle parce que je me bats un peu, c'est toujours un combat un peu pour moi de à la fois d'aller vers l'imaginaire et en même temps c'est absolument le lieu dans lequel je me sens libre. Et en fait le futur, c'est aussi finalement, comme il n'est pas encore là, c'est aussi tout simplement un lieu de c'est un lieu nouveau, un lieu inconnu, un lieu de fiction. Et du coup j'ai eu envie de c'est vers ça que j'ai envie d'aller, c'est-à-dire un lieu de où je peux finalement prendre ces outils du réel et tout d'un coup les fictionner et les amener avec des acteurs et finalement avec des acteurs leur dire, puisque c'est très concret, c'est en répétition, c'est pas leur dire en fait voilà aujourd'hui on va faire un spectacle sur des centres sociaux et donc on va travailler à ce que vous voyez tous les jours, mais en fait je vais leur dire venez, on va raconter une histoire. Et ce postulat là de départ, on va raconter une histoire finalement, mais tous les acteurs en présence dans quelque chose d'assez démocratique, j'ai envie de dire, puisqu'il n'y a pas ceux qui seraient qui posséderait finalement une connaissance de cet endroit-là de récit, mais finalement tout le monde du coup dans l'imaginaire peut trouver une place, puisque du coup l'idée c'est de raconter ensemble une histoire.
Et j'ai l'impression que cet imaginaire-là, vous allez le chercher justement dans des corps et des visages qui sont pas forcément habitués à la scène et qu'on voit pas forcément tout le temps sur les plateaux. Et là, c'est de l'immersion, vous l'avez dit, dans des lieux de soins différents. et aussi un long moment d'audition et de recherche d'acteurs qui sont pas forcément professionnels. Enfin, c'est un mélange. Et je crois aussi de très jeunes et de plus âgés d'ailleurs. Et vous l'avez fait dans plusieurs villes. Il y a 170 personnes, je crois, que vous avez vues, dont Youssouf Gueye qui a 16 ans, qui fait partie du projet et qui nous entend normalement s'il n'est pas happé dans le match qu'il suit en même temps. Youssouf, est-ce que vous nous entendez ?
Ouais, je vous entends très bien.
Alors vous, à 16 ans, vous avez déjà fait un peu de cinéma, mais jamais de théâtre. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a été demandé la première fois pour l'audition et ce que vous avez fait pour la première audition ?
Je m'en souviens, en fait, un peu après le confinement, j'ai fait une vidéo où je faisais... J'expliquais à ma famille, à ma mère que je devais partir pendant un long moment en Afrique pour aider là-bas, parce que moi je suis un enfant de France, je suis un enfant un peu privilégié, et j'allais là-bas pour aider, voir comment ça se passe. Et donc après, quelques mois après, j'ai fait une audition avec Caroline, il y avait son assistante et une directrice de casting. Ce qui m'était demandé, en fait, je devais venir déposer la plainte que ma mère elle avait disparu depuis quelques jours, et je suis venu et j'ai improvisé en fait sur ça.
Parce que ça, c'était les consignes pour la première vidéo d'audition, il fallait s'adresser à quelqu'un de proche et dire qu'on partait très loin. Donc vous étiez adressé à votre mère. Et qu'est-ce que vous avez pensé au tout début, parce que est-ce que vous connaissiez le théâtre, qu'est-ce qui vous donnait envie d'aller voir?
Pas du tout, je connaissais pas le théâtre, j'en avais jamais fait. J'avais déjà regardé du théâtre avec l'école, mais pas de moi-même. Et quand mon agent elle m'a parlé de ce projet théâtre, j'ai dit pourquoi pas, je vais y aller pour voir comment c'est, mais sans plus, sans l'envie d'en faire forcément. Mais quand je suis arrivé, on a fait une répétition avec plusieurs comédiens. J'ai vu la façon dont Caroline elle travaillait beaucoup sur des improvisations. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait. À partir de ce moment-là, je me suis dit que le projet il était intéressant et que j'aimerais bien y participer.
Et c'est pas rien de se dire je pars pour des longs mois de travail, après de représentation. C'est un engagement assez fort quand on a 16 ans de se dire je pars pour cette aventure-là. Mais vous n'avez jamais hésité, ou c'était quoi les sentiments quand vous avez su que ça marchait ?
Au contraire, j'étais content parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, que j'aime bien. Donc je suis même content de le faire pendant longtemps, pendant plusieurs mois, avec toute l'équipe et la compagnie.
Et ça vous dit quoi le mot fraternité ?
Le mot fraternité, ça... Quand j'entends fraternité, pour moi j'entends frère, j'entends sœur, j'entends solidarité, qu'on doit tous s'aider, qu'on est tous un peu pareil dans ce monde. On est tous un peu des frères, j'aime bien dire ça.
Caroline Guélan-Guyenne, vous parliez de l'importance pour vous de la fiction par rapport à un travail documentaire. Et je voulais qu'on écoute la voix de Wajdi Mouawad qui parle du pouvoir de la fiction, c'était en 2006.
Avant d'avoir lu La Métamorphose, je lisais des livres pour apprendre à lire et à écrire le français. Et donc je lisais des romans d'aventure où il était souvent question d'un héros que j'aurais voulu être, mais que très visiblement je n'étais pas. Et voici que je tombe sur La Métamorphose, qui raconte l'histoire d'un type qui se réveille un matin métamorphosé en un horrible insecte. Et ce héros que je n'aurais jamais voulu être, voici que je découvrais que je l'étais. J'étais ce personnage qui devait apprendre une nouvelle langue, qui se sentait métamorphosé parce qu'il avait de nouveaux amis, dans une nouvelle culture. Il sentait que sa famille était oppressée mais je ne pouvais pas dire des mots comme ça. Les mots que je vous dis en ce moment n'étaient que impressions et sensations, mais je sentais une métamorphose. Et voici que la littérature me démontrait qu'il y avait quelque chose qui était beaucoup plus proche de moi que mes propres parents. Que ce livre que je lisais était plus proche de moi que ma propre mère, si vous voulez. Et du coup, je suis tombé dans quelque chose dont je n'ai plus jamais pu m'en détacher, qui était la nécessité d'être dans la poésie aride de ma propre vie. C'est-à-dire ne pas expliquer ma vie par la biographie, par le privé, par le social, même par la psychanalyse, parce qu'on pourrait très bien dire, oui, bon, ben, il est libanais, il a quitté le Liban, ça a dû le traumatiser, tout ça c'est vrai. Mais le plus important, c'est que tout ça peut mener à la poésie, donc peut mener à une forme qui soit exaltante, qui est la beauté.
Et il poursuivait, ouais, je dis moi, Wad, en disant la nécessité de raconter une histoire, d'être dans la narration toujours. Et j'avais l'impression que ça faisait écho à votre travail, Caroline Guélan-Guyenne, en tout cas cette volonté de projeter ceux avec qui vous travaillez dans un espace qui n'est pas le leur ou qui n'existe pas encore. Et j'ai pensé à votre travail, donc, qui est un des chapitres de ce cycle Fraternité, qui est le film que vous avez tourné cet été à la centrale à Arles avec des détenus avec lesquels vous travaillez depuis plusieurs années aussi. Et là, pour le film, c'est pareil, c'est un conte fantastique et vous les projetez dans un futur, dans un espace qui n'est pas leur et vous ne les laissez pas entre les murs de la prison.
Oui. Oui, je sentais que... Enfin, quand j'ai commencé à imaginer ce film avec les comédiens détenus de la centrale d'Arles, j'ai senti la nécessité immédiatement, en fait. D'ailleurs, Fraternité Conte Fantastique est venu vraiment ce conte fantastique très fort en étant dans la centrale, parce que justement... j'avais envie de pouvoir, enfin, comment dire, oui, décaler le regard qu'on allait pouvoir avoir sur eux au moment même où on regardait le film. Et c'était important de repasser totalement par la fiction pour, oui, comme vous dites, ne pas les laisser clouer là où ils sont. Et en fait, moi, quand je travaille avec des gens, que ce soit pour la pièce de théâtre ou pour le film, en fait, là, le film, j'avais envie de savoir finalement avec ces comédiens détenus ce que eux ils avaient, enfin, ce qu'ils avaient en fait à m'apprendre sur finalement le lieu et la situation dans laquelle ils sont. Et finalement, la chose qui est arrivée très vite, c'était la question du temps. Et pour parler du temps, pour parler de cette chose qui leur est profondément, qui vivent de, enfin, c'est une expérience profonde du temps, ce qu'ils vivent dans cette centrale. J'avais besoin de partir de la prison pour qu'on puisse, en tant que spectateur, entendre cette chose-là. Et la fiction, en fait, m'a permis et nous a permis. Là, je sors tout juste du montage image. Et là où je suis heureuse, c'est que je sens à quel point la fiction m'a permis de les rencontrer à l'endroit où ils sont eux vraiment, alors que et que justement le enfin voilà, que j'avais besoin de ça pour qu'on oublie ces murs et qu'ils nous parlent quelque chose qui leur est à la fois étranger, puisque ils ne sont pas ils jouent des personnages, ils jouent dans un monde qui n'existe pas, et pour autant, je n'ai jamais eu autant l'impression de les rencontrer dans cette histoire qui n'est pas la leur que finalement quand j'arrive et qu'ils me racontent leur histoire comme ça, de façon documentaire, on va dire, documentaire.
Jean Ruimi a été transféré à la centrale à Arles en 2013 et il a voulu y créer un groupe de théâtre. Le metteur en scène Joël Pomera y a entrepris un long travail. Il a été rejoint donc par Caroline Guélan-Guyenne. On a pu enregistrer un échange avec Jean Ruimi depuis le centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. On écoute, ça dure un peu plus d'une dizaine de minutes. Jean Ruimi, est-ce que vous vous souvenez en tout cas de votre désir de théâtre, la toute première fois, le désir d'écriture, comment c'est arrivé?
Mais la première fois, c'est quand j'étais au Beaumet. Je me suis retrouvé au Beaumet, ça devait être en 2009, je crois, ouais. Et il y avait l'effectif de la Belle de Mai. On appelait ça, nous au Beaumet, le TDB. Et en fait, on pouvait travailler là-bas. Et moi, j'avais postulé déjà plusieurs fois pour travailler. Et à un moment donné, on m'a accepté. Je me suis retrouvé là-bas. Et là-bas, c'est plus cinéma. Et on a commencé à tourner, à faire des petits films de 3 à 4 minutes, avec des images, on racontait des histoires. Voilà, et ça m'a plu. J'ai fait 3 ans. Et un ami, il faisait du théâtre. Ils ont fait une petite pièce au Beaumont, ils ont fait une petite pièce. Et il m'a dit, Jeannot, viens nous voir, moi. Franchement, j'étais pas trop chaud pour le théâtre, pour faire du théâtre, quoi que ce soit. Et eux, ils jouaient, par contre, ils jouaient une pièce au Beaumont, ils jouaient, je m'en peux plus, c'était, je crois que c'était la VAR, ou je m'en souviens plus exactement, c'est assez vieux quand même, hein. Et bon, ça m'avait plu, mais sans plus. Et en promenade, il réinsiste, lui. Il me dit, Jeannot, on est en train de faire un groupe de théâtre, ça te dirait et tout. Je dis, non, ça me plaît pas et tout. Il me dit, et moi, c'était impensable que je monte faire le comique sur des planches vis-à-vis des gens et tout. C'était impensable pour moi. Et il insiste, il dit, bon, ça va aller, je viens, mais je te le dis, je reste pas longtemps. Et quand j'ai été voir, il y avait un dénommé, je vous donne juste les prénoms, un dénommé Christophe, Galinette et Hugo. Voilà, ils étaient 3. Et ils ont commencé à me montrer comment ils jouaient, comment... Et ça m'a plu. Ça m'a plu, mais moi, ce que j'aimais, c'est surtout écrire. Et on a commencé à monter une pièce. On a voulu monter une pièce. Alors, on ne savait pas à quoi faire. Et vous savez, en promenade, on parle un peu de tout, un peu de tout et de rien. Et souvent, ça vient que si on gagnait le loto, ici et là. Et on parlait de ça, on disait, putain, t'imagines, si on gagne le loto, qu'est-ce que tu ferais, pas qu'est-ce que tu ferais. Et du loto... On est parti à la magie. Tiens, si tu étais magicien, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je ferais disparaître les murs. Moi, si, moi, là. Et j'ai dit, pourquoi pas, on monte une pièce. Mais comment? Une pièce sur le temps. Parce que vous savez qu'en prison, le temps, c'est ce qui est le plus important. Mais comment faire? Comment faire monter une pièce comme moi? Faire comment ça s'appelle? Dans une voiture, retour vers le futur. C'est pas possible. Harry Potter avec une baguette, c'est un peu impensable. Du coup, il m'est venu cette idée de la machine à voyager dans le temps. Et on a commencé à écrire. À écrire cette pièce, on était 5 détenus, on se retrouvait en promenade, et d'un coup, un des détenus, il était beaucoup... il faisait des études et tout, et il était technicien, enfin tout ça. Et il arrive à monter une machine. Voilà, ça c'est la pièce. Et on crée ça. Mais moi, quand je l'écris et tout, au Beaumont, on ne peut pas la finir. Parce qu'au Beaumont, c'est une plaque tournante. Il y a des gens qui sont dedans, qui sont libérés, qui sont transférés et tout ça. On n'a pas pu la monter. Mais j'avais tout écrit et tout, j'ai tout gardé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai amené à Arles. Et à Arles, j'ai demandé à voir la direction. Et je voulais créer ça. Parce qu'en fait, depuis toujours, j'ai envie de créer une école de théâtre. Depuis ce moment où c'est que j'ai vraiment senti que ça me plaisait. Et là-bas, j'ai été, j'ai dit, tiens, pourquoi pas tenter de le coup. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait une directrice, elle était merveilleuse.
Vous êtes allé la voir pour lui dire, je veux créer une troupe de théâtre dans la centrale à Arles.
J'ai demandé une audience et je l'ai vue. Et c'était Madame Charbonnier, elle s'appelle. Maintenant, elle est à l'ADI. Elle est directrice à l'ADI. Et du coup, elle était friande de théâtre. Et quand j'y ai proposé ça, vous imaginez, elle m'a dit de suite, oui, on va faire tout le nécessaire et tout. Ben, ça a mis du temps quand même. Hein. Avant de commencer, on a mis à peu près 18 mois. J'ai rencontré un ancien directeur de théâtre d'Avignon, M. Jean-Michel Grimelet. Et lui, il ne s'est pas senti. Il m'a dit, c'est un peu lourd quand même, c'est gros ce que vous voulez faire et tout. Je ne peux pas le faire. Il me dit, mais par contre, je connais quelqu'un si ça vous intéresse. Je dis, oui, parce que moi, je vais monter, mais je ne sais pas comment la mettre en pratique, la pièce. Je voulais que la prison, chaque prison ait leur école de théâtre, parce que ça fait du bien. C'est entre guillemets, même que le mot ne plaît pas en prison, ça vous évade dans la tête. Le jour j'y arrive, il me présente Joël Pomora. Je vois arriver, moi, je ne connaissais pas, hein, je ne savais même pas qui c'était, hein. En me présentant, je vois arriver cet homme mince, cheveux grisonnants, barbe grisonnante, et il se passe quelque chose. Entre lui et moi, il se passe quelque chose. Et du coup, on a commencé à travailler. Mais ça a pris une proportion, mais énorme, il nous a donné, parce que sa façon de travailler, elle est très très forte.
Comment vous décririez sa façon de travailler à Joël Pommerat? Est-ce que ça vous a apporté? Parce que vous aviez déjà donc monté quelque chose, vous aviez écrit une pièce, mais lui, il est arrivé pour vous aider à la mettre en scène, et puis après, vous avez mis en scène d'autres spectacles, je pense à Marius.
En fait, il veut qu'on, quand on prend le personnage, il veut qu'on soit nous-mêmes. Il veut qu'on soit sincère. Si, quand vous jouez et que vous forcez à jouer, ben, ça ne peut pas marcher, c'est pas possible. Et attention, il est très gentil et tout, mais il est strict dans le travail, hein, il est dur hein, dans le travail. Je ne sais pas dehors comme il est, mais avec nous, il était quand même... il était dur, hein, il fallait qu'on soit à la hauteur de ce qu'il voulait. Hein. Et d'ailleurs, Caro, elle fait un peu comme lui, on fait beaucoup d'impro. Et vis-à-vis de ces impro qu'on fait, parce qu'en fait, quand vous faites de l'impro, ça vous sort des tripes, quoi. Vous jouez, c'est vous qui inventez, qui jouez. Et c'est de l'impro, ça vient instantané, ça vient comme ça. Et du coup, c'est là que eux, quand vous faites de l'impro et que ça vient du cœur, hop, eux, ils prennent justement ces moments-là. Et après, ils écrivent, ils vous le tournent à leur façon. Et entre-temps, il nous a amené Caroline.
Qu'est-ce que vous avez pensé la première fois que vous avez vu Caroline Guillen-Guyenne arriver?
Quand on l'a vu la première fois, c'est vu une jolie fille, parce qu'on était en prison, on s'est dit, putain, une jolie fille et tout, mais jamais on pensait arriver à travailler avec elle.
Pourquoi?
Parce qu'on était beaucoup. Au début, je crois qu'on était une quinzaine, hein, 12 ou 15 hein, détenus qui travaillaient. Et quand on l'a vu arriver, on s'est dit, bon, pourquoi pas? Et on a commencé à travailler. Mais elle est rentrée de suite. En fait, on ne l'a plus vue comme une femme. On l'a vue comme un collègue de travail. Oui, mais tout le groupe, hein, c'était comme ça. Hein, tout le monde, hein. En fait, comme une sœur qui nous aide, la grande sœur qui vient de nous aider à travailler. Et on s'est retrouvés tous avec elle. Et du coup, on a pris plaisir parce qu'elle est dure dans le travail, parce qu'elle est stricte. Mais elle est tendre aussi, parce que elle est sensible. Je la trouve très sensible quand il y a, mettons, une émotion ou qu'il y a quelque chose qui rapporte à notre vie réelle. Ça la touche. Et quand elle travaille comme ça, c'est ce qui vous donne la force de... Elle vous amène, en fait, elle vous amène à là où elle veut aller. Franchement, c'est quelque chose de très fort.
Et au tout début, vous parliez des promenades entre vous et vous parliez du temps et vous aviez envie d'écrire et vous avez écrit sur le temps, une machine qui remonte le temps ou qui l'avance. Est-ce que là, Caroline Guillen-Guyenne, pour le film que vous avez tourné ensemble, c'était aussi l'envie d'écrire un conte fantastique et là de se projeter dans le futur et donc de travailler aussi sur le temps, la façon dont le temps peut se figer? Ça, c'est quelque chose, j'imagine, qui vous a intéressé, qui était en écho à toutes les questions que vous posiez, vous?
Ben oui, tout à fait. Justement, elle nous a donné le film aussi. Voilà. Sur ça, on est parti sur de l'impro, en faisant comme ça. Nous, on avait la base, et on travaillait avec c'est une vague, voilà, elle avait détruit, il ne restait que 17% de l'humanité, et on s'est retrouvés comme ça. Et on faisait de l'impro. Mais c'est vrai que le temps, d'ailleurs, ça joue ici. Vous savez, moi, parce qu'au départ, son film, elle l'a appelé Fraternité. Et là, je ne sais pas si elle vous l'a dit, elle veut l'appeler L'Englouti. Et moi, je trouve que c'est parfait. L'Englouti, vous savez, moi, nous, la vague, en fait, moi, enfin, personnellement, je vous dis ce que je ressens. La vague, pour moi, c'est le temps. C'est le temps qui vous engloutit. Comme le temps est très long en prison, mais il est très court aussi, le temps. Parce que faire quelque chose, exemple de faire un film, et être restreint sur le temps pour le tournage, quand nous donnons en prison, c'est très difficile. Mais le temps nous brise aussi. Vous voyez, le temps, il nous rend... c'est difficile, le temps il est, on n'arrive plus à se trouver. Parce que un jour, c'est un mois, une semaine, un an, 10 ans, c'est le même. Il n'y a pas. On se lève, c'est toujours pareil. Mais il peut nous rendre fort aussi. Parce qu'il nous efface, mais il nous illumine aussi. Exemple sur le tournage. C'est quelque chose d'énorme. On se retrouve là, dans les projecteurs, c'est énorme. Mais il nous fait pleurer aussi, le temps. Le temps, il nous fait haïr. Quand on est condamné, exemple. Mais il nous fait rire aussi. Il nous donne de la joie, le temps. Parce que quand on a fini notre peine, on est libérable. Vous voyez, c'est... Le temps est beaucoup... Il y a beaucoup de choses dans le temps. Le temps c'est primordial dans la prison, mais dans la vie aussi de la prison.
Quand on joue au théâtre, quand on fait du théâtre, il y a aussi un rapport très très fort au présent, à l'instant. Il y a aussi ce rapport-là au temps.
Parce que si... Mais c'est très bien que vous posez cette question, parce que justement, le temps, il nous engloutit si on ne sait pas le gérer. Et là, justement, le théâtre, le cinéma qu'on amène en prison nous donne justement cette force de savoir le gérer.
Et Caroline Guillen-Guyen, elle parle souvent aussi du besoin absolu de fiction qu'elle a, et puis la façon qu'elle a d'entrer dans la fiction. Elle parle souvent des larmes aussi, vous en parliez tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, ce besoin de fiction, il est très fort aussi pour vous aujourd'hui?
Mais vous savez, la fiction, la prison, elle y est 24 sur 24. Hein. Parce que quand vous marchez, vous êtes en promenade et vous marchez, et que vous vous retrouvez avec, excusez-moi le terme, certaines personnes un peu des airs humaines, vous vous retrouvez là et vous vous dites, putain, mais qu'est-ce que je fais là? C'est de la fiction, quoi. Je suis dans un film, c'est dur ce que je vais dire, mais vous ne vous retrouvez pas à votre place. Et là, vous voyez ça, vous dites, putain, mais c'est de la fiction. Et Caro, justement, je rigole parce que Caro, justement, elle vous amène ça. Elle vous ramène à ça. Elle vous trouve cette fiction qui est forte, qui est dure, mais qui est bonne.
Et dans cette fiction-là, dans celle qu'elle vous propose, vous vous sentez à votre place?
C'est pas que je me sens à ma place, c'est que elle vous amène autre part de ce que vous viviez. C'est pas pareil.
Et le mot fraternité, comment vous l'entendez?
Quand il arrive une catastrophe, tout le monde se réunit. Et c'est ça la fraternité. C'est-à-dire que quand on a été englouti dans le film, en étant englouti par une vague énorme, là, on se réunit.
On a besoin d'une catastrophe pour éprouver la fraternité?
Non, on n'a pas besoin d'une catastrophe. Mais l'être humain, malheureusement, si. On n'aurait pas besoin de... On pourrait le faire sans catastrophe. Avec exemple, je vous mets un exemple, le film. Nous sommes plusieurs détenus, on est de plusieurs origines, classes sociales, et pourtant, on est tous unis comme une famille. Vous voyez? C'est ça la force du théâtre, du cinéma. Là, depuis, ça va faire 7 ans qu'on est un groupe, on est une famille, on est un groupe de théâtre, justement, c'est la fraternité qui nous rassemble tous. Et ça, c'est énorme. En prison, c'est énorme, parce que vous savez, en prison, c'est la jungle, on dit. Mais c'est pas vrai. Quand vous arrivez à analyser les choses et que vous vous posez des questions, parce que, en fait, le théâtre, il vous impose à vous poser des questions, malgré vous. Voilà, vous vous posez des questions, parce qu'à chaque fois qu'on joue un personnage, vous vous demandez qui c'est ce personnage. Et ces questions, il faut se les poser.
Et est-ce qu'un jour, vous avez joué et vous avez dit une phrase que vous auriez aimé écrire?
C'est sûr que j'aurais aimé écrire beaucoup de choses dans le film de Caro. Mais moi, ce que j'aime en Caro, c'est que je participe avec elle. Elle nous laisse. En fait, elle ne nous met pas comme juste vous êtes un comédien, c'est bon, vous avez joué votre scène et c'est bon. Non, elle vous fait participer parce qu'elle vous demande si ça c'est bien. Si, enfin, avec moi, je veux dire, il y a une complicité. On a commencé tous les trois, Joël, elle et moi. Et il y a une complicité. J'espère, je le souhaite de tout mon cœur que quand je sortirai, parce que moi je vais travailler avec Joël Pomora. Et quand je sortirai, j'espère qu'on fera quelque chose tous les trois. Voilà, ça c'est mon rêve, quoi. J'aimerais faire quelque chose avec eux. Qu'on écrive quelque chose ou que je joue avec voilà, mais qu'on écrive quelque chose tous les trois.
Caroline Guélan-Guyenne, elle n'est pas finie l'histoire avec Jean Ruimi.
Non, je suis très très émue de tout ce que je viens d'entendre. C'est marrant parce que en fait, il y a quelque chose qui relie, qui a vachement fait écho à ce que, enfin, je me disais, tiens, il y a Jean et Youssouf qui disaient deux choses. Disaient au début où le théâtre leur est tombé dessus entre guillemets, ils se disaient waouh, mais en fait, qu'est-ce que c'est le théâtre? Ils résistaient finalement à cette idée-là. Et que c'était pas pour eux évident, le théâtre. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose, je crois, que je cherche en fait dans les comédiens avec lesquels je travaille, que ça soit pas évident en fait le fait de faire ce qu'on fait, et que c'est parce que précisément c'est pas évident que tout d'un coup on essaye de le remplir absolument pour qu'il le devienne. Et c'est pour ça que je crois que j'adore travailler avec des acteurs qui soient amateurs ou pas, qu'importe, mais en tout cas qui en fait à chaque fois me redisent, mais attends, en fait on fait quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? C'est étrange quand même de faire du théâtre là actuellement. Enfin, c'est étonnant de faire du théâtre. C'est pas en soi. Enfin, moi je et j'adore en fait à chaque fois me redire que quand on est dans nos salles de ces plateaux de théâtre ou dans des studios de cinéma comme c'est devenu ce petit studio de cinéma quand on était à Arles, bah tout d'un coup de se dire ok, bah on est en train de faire quelque chose qui est assez étonnant en fait, mais du coup comment on le charge pour que tout d'un coup ça devienne profondément et viscéralement nécessaire.
Et Jean Ruimi parlait de des improvisations et de la façon d'écrire ensemble à travers finalement ces improvisations. Youssouf Gueye, vous en parliez aussi. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, dans ce travail d'improvisation et du coup ce que vous pouvez apporter? Jean Ruimi disait ça part des tripes, et Youssouf, je crois que vous parliez de liberté que vous ressentiez dans ce travail-là.
Ouais, c'est ça. Je trouve que dans les improvisations, il y a beaucoup de liberté. Il n'y a pas de limite, en fait. C'est moi qui fais ce que j'ai envie dans l'improvisation. On me fixe rien. On me dit juste, on me dit ce que je dois faire. Et après, moi, je fais ce que je veux de ça. Je le joue comme je veux, comment je le sens. Et je trouve que c'est une grande différence avec le cinéma. Et c'est ça que j'aime aussi dans le théâtre. C'est ces improvisations où je fais ce que tu veux, en fait.
Caroline Guélan-Guyenne, la première semaine de résidence a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Et comme vous le disiez, vous avez traversé beaucoup de laboratoires de fraternité, donc en fait beaucoup de lieux ou d'associations qui travaillent au lien social, dont le centre Minkowska, qui s'occupe de l'accompagnement psychologique de personnes réfugiées, où vous avez rencontré Mavi Carlin. Mavi, vous êtes avec nous. Vous m'entendez?
Très bien.
Parfait. Et vous étiez là pendant cette première semaine de résidence. Vous êtes venu et vous avez rencontré les comédiens, dont Youssouf. Quel rôle vous avez joué?
Ben moi, j'ai joué le rôle de la psychiatre. Mais en fait, j'ai souri en écoutant les témoignages des acteurs, parce que c'est vrai, je pense que Caroline a ses dons, et donc cette journée des formations s'est pas passée comme je l'avais en tête, mais comme je suis quelqu'un qui aime bien aussi se surprendre et s'étonner, finalement dans cette improvisation où moi j'ai jouer mon rôle de psychiatre, c'est là où je pense que c'est jouer la rencontre humaine, et c'est là où voilà, on a pu travailler des choses avec les acteurs et qui pour moi ont été vraiment très vrais. Enfin, moi-même par moments j'étais toujours Mavi Carlin, la psychiatre, mais j'étais dans les jeux, dans cet espace hors de temps qui en effet nous offre les théâtres.
Parce que vous êtes venu leur donner une formation comme vous pouvez le faire dans votre quotidien. Sauf que là, c'est des comédiens. Et je crois que dans votre travail, notamment, il y a toute cette question de comment on peut soigner l'autre, notamment quand on parle pas sa langue, ou quand on n'a pas les mêmes systèmes de représentation, ou quand c'est une séance où le patient se livre et qu'il faut un traducteur, parce que la langue, on la partage pas. Est-ce que toutes ces questions-là, c'est des questions que vous avez abordées avec les comédiens ?
On en a parlé et voilà, on a travaillé sur comment on aborde les travails avec des interprètes, quand on ne partage pas une langue tierce, mais c'est encore une fois, c'était par les jeux et par l'improvisation, finalement, que ça a été possible de donner l'exemple, non, de comment finalement, quand on met au centre l'autre personne, qui on regarde vraiment le monde qu'on a face à nous, tout est possible. Et c'est vraiment un peu, je pense, les credos qu'on a au centre Minkowska et qui nous permet de travailler avec des gens qui viennent du monde entier et donc de pouvoir accompagner la souffrance de tout le monde, de toute personne, peu importe d'où vient, du moment où on peut communiquer. En effet, c'est possible de soigner et se soigner ensemble.
Caroline Guillen-Guyenne, pourquoi c'était important pour vous que ces personnes professionnelles du soin soient présentes pour cette première semaine de répétition ?
Je voulais dire une chose, c'est que on parle de fraternité depuis le début, et c'est vrai que ce groupe ce groupe de comédiens que je réunis, c'est un groupe de comédiens, enfin, sont des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents. Et j'avais vraiment envie, enfin, de se poser la question de la fraternité avec des gens qui viennent socialement, culturellement, spirituellement, d'horizons mais très différents, et que la fraternité pour moi ne pouvait se poser que dans ces conditions-là, que finalement, enfin, cette question du coup aussi du soin, de comment on va vers l'autre, elle ne pouvait se poser que dans ces conditions-là, dans ces conditions de comment est-ce qu'on fait pour penser la fraternité effectivement quand tout d'un coup la personne en face de moi ne parle pas la même langue, quand elle a des systèmes de représentation qui ne sont pas du tout les mêmes que les miens. Comment est-ce qu'on fait vraiment, comme je le dis depuis toujours, finalement le commun, c'est très beau, mais le commun, ça se travaille. C'est complexe, et on le voit actuellement à quel point le commun, ça se travaille, c'est complexe, mais il faut s'y confronter. Actuellement, c'est la question vraiment qu'on a nous sur les épaules, mais tous là, enfin vraiment. Et du coup, c'était tellement fort quand je suis rentrée au centre Minkowska ou au centre Primo Levi aussi, du coup, qui est un centre qui s'occupe des personnes qui sont exilées et qui ont subi des tortures. Mais du coup, c'était tellement fort pour moi de voir ces personnes, ces personnels soignants, prendre soin de personnes qui sont à des kilomètres, à des milliers de kilomètres d'eux. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai besoin qu'ils viennent nous enseigner ça. Alors déjà, pour des questions très concrètes, on va dire même de comme du coup, je suis très attachée, et même si je suis très attachée à la fiction, vous avez compris, je suis très attachée à la fiction à partir du moment où elle est, comment on appelle ça, les montgolfières qui sont clouées au sol, enfin qu'elles sont, accrochées au réel, que tout d'un coup, elles pèsent, elles sont conséquentes avec le réel. Donc du coup, j'avais besoin de comprendre quelles étaient même la façon dont ça parle, la façon dont ça accompagne. Et puis aussi, j'avais envie de finalement mettre toutes les personnes. Quand je suis rentrée dans le centre Minkowska, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait à la fois du coup le soin, qui était du coup vraiment la façon dont ils soignaient ces personnes, mais il y avait aussi tout un volet qui était donc le volet de la formation, donc de former des gens, de former des personnes qui auraient besoin de comprendre comment faire pour soigner quelqu'un. Et en fait, je me suis dit, mais c'est génial si moi je mettais tous les acteurs dans une situation où dans un monde dans 50 ans, on aurait besoin tous d'être soignant. Et on serait aussi tous blessés, puisque notre fiction propose quelque chose où finalement, comme je disais, il y a une forme de catastrophe qui met tout le monde un peu au même endroit. Et donc tout le monde est blessé et tout le monde à la fois doit soigner aussi. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, en fait, après la rencontre très forte avec Stéphanie Larchancher, qui est anthropologue du soin, avec Mavi, qui est psychiatre, ou avec Vertancia, qui est assistante sociale, je me dis, en fait, j'ai envie que ces femmes, ou Teresa Pantes aussi, qui travaille sur la thérapie communautaire au Brésil, j'ai eu envie qu'elles viennent. Et pendant une semaine, ces femmes, je dis ces femmes parce qu'il n'y a que des femmes, sont venues passer une semaine avec nous pour apprendre à tous ces comédiens, Youssouf, Anne, que vous avez, enfin que les gens ont vu dans Saigon par exemple, ou Dan Artus, ou Elios, enfin tous ces gens, à soigner, à quels sont les gestes du soin, quels sont les mots du soin. Et voilà. Et du coup, ça nous a effectivement plongé, ça nous a mis en immersion dans cet espace-là.
Et Mavi Carlin, en parlant un peu avant l'émission et en évoquant ce projet qui s'appelle Fraternité, vous disiez ce projet ressemble tellement à moi, c'est tellement fort qu'il y a une évidence.
Oui, mais c'est que je pensais entre moi et moi ce soir en vous écoutant les uns et les autres, parce que je pense que quand on termine en étant psychiatre, qui s'occupe principalement des personnes qui ont vécu soit des parcours d'émigration très compliqués, soit des parcours d'exil, qui ont été souvent confrontées à ce qu'on appelle les psychotraumas, on a vraiment, vraiment besoin de remettre les personnes au centre et leur donner quelque chose. En effet, ça me parlait beaucoup, les récits des gens et du temps, de les sortir de cette temporalité qui peut coincer et de leur redonner un futur. Et en fait, les jeux du soin, c'est un peu ça. C'est d'un côté rendre les présents possibles, mais surtout donner la possibilité d'un futur. Et donc voilà, c'est clair que toute cette expérience et les théâtres, comme il entend Caroline, me parlent beaucoup.
Et Caroline Guillain-Guyenne, en parlant de toutes ces rencontres avec ces femmes-là, vous écrivez un petit carnet de bord que j'ai pu lire de la création, et vous parlez à un moment de la honte presque que vous avez à parler de théâtre avec ces gens qui sont en prise avec un réel très difficile au quotidien, et vous vous dites souvent, cette phrase arrive dans ma tête, quelle idée de faire du théâtre aujourd'hui, et puis après très vite arrive l'amour des histoires et leur importance. Comment vous répondez à ça aujourd'hui, quelle idée de faire du théâtre?
Ben je sais pas, j'y réponds jamais vraiment totalement ou jamais vraiment pour longtemps, on va dire, mais je crois peut-être que je me suis un petit peu consolée à l'idée de me dire que ça sera sûrement la force de nos projets, parce que non, mais voilà, j'ai un amour et des amours et un immense amour et un immense désamour chaque jour de ma vie sur le théâtre. Mais j'aime profondément le théâtre. Je ne saurais absolument pas quoi faire d'autre. J'ai besoin de comprendre vraiment. C'est vrai que je répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai besoin de comprendre toujours pourquoi est-ce qu'il est là Mais c'est beau quand j'arrive en répétition à Reims ou quand tout d'un coup le studio de cinéma se monte dans le gymnase du centre pénitentiaire de Arles, ou quand j'arrive tout d'un coup en première semaine de répétition de théâtre à Reims, et où on est en train de caler les horaires de repas qui peuvent être très différentes par rapport aux autres, où je vois tout d'un coup les trois interprètes arriver, enfin
là il y a une
évidence. Je vois tout d'un coup des gens, voilà, en fait là il y a une évidence, et je me dis OK, ben en fait le théâtre, il me permet avant tout finalement de créer un lieu. Voilà. Peut-être là, aujourd'hui, ça peut me permettre de répondre ça. Le théâtre me permet de créer un lieu où il y a des gens qui arrivent, un lieu qui n'existe pas, mais où tout d'un coup, je peux tout d'un coup rencontrer ces gens et que ces gens se rencontrent et inventer ensemble des histoires.
On aura traversé pas mal de laboratoires de fraternité grâce à vous ce soir. Merci, merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de l'émission. Merci à Inès Duperron, à Jacques Ezubert pour la technique. On finira par deux questions non posées de Caroline Guillain-Guyenne à une psychanalyste. Vous vous êtes déjà dit, je ne sais pas comment l'aider, et le futur, vous en pensez quoi?